qu'Ismaël et sa sœur Yassal. J'ai reçu totalement cette
histoire. Moi, j'ai eu une photographie au Casablanca.
Bonjour à tous. Des cas suspects de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été détectés à Isiro, chef-lieu du district du Haut-Kwélé, dans la province orientale. Au Nord Kivu, le ministre provincial de la Santé a indiqué au cours du Conseil provincial des ministres tenu le week-end dernier que cette épidémie est à la porte de la ville de Goma. D'autres cas suspects sont aussi signalés dans certaines localités du district du Turi. Selon vous, comment peut-on lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et fait encore des victimes en RDC depuis 1976? C'est cette question qui sera l'objet du débat, de cet échange et partage de 57 minutes interactives. Alors réagissez déjà, notre standard est ouvert et faites-nous parvenir vos critiques, questions et préoccupations en nous appelant au 081 890 43 39. Déposez également vos commentaires à pa@radiocapitonec et vous avez aussi la possibilité de le poster sur notre page Facebook. Tutu Poutou, Comtesse Matouba et Guy Mandangou réalisent cette émission et Jir Nguyenbo vous la présente sous la supervision de Nicole Data. Bienvenue à tous.
C'est le rendez-vous signé de Radio Okapi. Le chemin de Kébé et les anciens difficiles, la dépendance remontée de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Okapi. Les cinémas bolivien et les émotions, et je vous y attends.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Je le disais tantôt, 5 cas suspects de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été détectés à Isiro, chef-lieu du district du Haut-Kwélé, dans la province orientale. Là, nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo, a indiqué dimanche dernier Jean-Marc Madindi, médecin inspecteur provincial de la province orientale. Un autre cas dont la mort s'en est suivie a été notifié à Dungu, l'un des 6 territoires que compte le district du Haut-Kwélé. Nous êtes donc, selon les informations en notre possession, les autorités sanitaires attendent les résultats des analyses en vue de diagnostiquer le virus. Voilà, donc l'épidémie de fièvre Ebola, virus, est apparue, signalons-le, depuis juillet 2000 dernier, à 200 km de Kampala, en Ouganda, tuant 14 personnes sur les 20 cas confirmés. Voilà, donc nous avons en ligne déjà notre invité, Félix Kabangé Numbi, ministre de la Santé publique. Avec lui, nous allons réfléchir autour de cette question. Bonjour, Monsieur Félix. Voilà, nous allons plutôt prendre notre le premier auditeur qui est en ligne d'ailleurs, Fiston qui est à Kindu. Bonjour Fiston. Voilà, Fiston, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. Bonjour à toi, Capi, bonjour les auditeurs en plus.
Voilà, selon vous, comment peut-on lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et fait encore des victimes en RDC depuis 1976?
Oui, d'abord, mon intervention par rapport à la lutte contre ces histoires, c'est d'abord la salubrité. Vous savez, ici chez nous, par exemple, à Kindu, si vous passez par des avenues, vous allez trouver quand même que les gens ne prennent pas soin de leurs parcelles, ils mettent des poubelles un peu partout. C'est ça qui crée les différentes maladies. Et par rapport à cette hémorragie, je sais que actuellement, avec la médecine moderne, la RDC, nous sommes en train de nous borner toujours et encore à la médecine traditionnelle. C'est ça qui crée encore des problèmes. Nous devons peut-être apprendre aux Occidentaux, ceux qui sont en train de faire, par exemple, je vous donne l'exemple en Afrique du Nord, cette hémorragie n'existe plus encore.
Voilà, merci Fiston d'avoir... de nous avoir donné toutes ces précisions. Et nous avons Dr Richard qui est à Kinshasa. Dr Richard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tout le monde.
Oui,
bonjour à tous ceux qui sont paniqués par rapport à cette maladie. Alors,
Oui, alors, docteur Richard, parce que nous parlons de cette fièvre hémorragique, un virus Ebola, qui ont été détectés, en fait, des cas suspects de fièvre hémorragique, qui ont été détectés à Isiro, au Nord Kivu, et dans d'autres localités du district de Ituri. Je ne sais pas, selon vous, comment on peut lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et fait encore des victimes en RDC depuis 1976.
Oui. Voici ma modeste contribution. Je dis ceci, la fièvre hémorragique par le virus d'Ebola peut être luttée efficacement d'abord, un, par l'information. L'information qui rassure, l'information qui donne à la communauté des outils de lutte, c'est-à-dire ceci, premièrement, la connaissance du devoir. Deuxièmement, la connaissance sur les signes qui annoncent cette maladie. Troisièmement, la prise en charge une charge.
Voilà. Oui, docteur Richard, vous sortez très coupé, hein. Vous pouvez peut-être changer votre position.
Oui, je change la position.
Oui, allez-y.
Vous souhaitez alors?
Oui, allez-y. Vous avez parlé de l'information, de connaissance sur les signes.
Ça se fait en disant l'information à la communauté. La bonne information qui ne fait pas paniquer. Alors, la deuxième chose, c'est conduire cette communauté dans la reconnaissance du réservoir. Parce qu'aujourd'hui, on suspecte des rongeurs, entre autres les lapins, les chimbriquis, etc., etc., et les chauves-souris. Troisièmement, montrer à la communauté, quand une personne est victime, comment assurer sa prise en charge afin que sa maladie ne se répande pas dans la communauté. Donc une prise en charge conséquente et rassurante qui protège la communauté. Et le reste viendra.
Voilà, merci docteur Richard. Donc nous retenons que la prise en charge doit être conséquente pour permettre à ce qu'on puisse réellement lutter d'une manière efficace contre cette épidémie, contre cette fièvre hémorragique à virus Ebola. Merci docteur Richard. Nadège, vous êtes en Boujoumaï. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Oui, Nadège, comment réagissez-vous pour qu'on puisse arriver à lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique?
Bon, selon moi, je trouve qu'il faut d'abord informer la population sur la maladie, les causes de cette maladie, d'où vient cette maladie. Parce que généralement, quand cette maladie a apparu dans notre ville, dans les périphéries, on ne savait pas d'où se venait. Il y avait toujours des racontards pour dire non, si tu salues la personne, tu es contaminée. Mais on ne savait pas l'origine de cette maladie. Ce qui est de mieux, c'est d'informer la population correctement sur cette maladie. Et nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge en fonction de cette information qu'on va nous a donnée. Mmh. C'est un peu ça que je peux donner, parce que les gens parlent d'Ebola, ne savent pas réellement qu'est-ce que cette maladie peut causer comme dégâts et comment est-ce qu'on peut la traiter. Si ça sera mieux de nous donner d'abord des informations précises et sûres, et à ce moment-là, si nous avons cette information, et puis on peut aussi transformer aux autres cette information, et on peut épargner beaucoup de gens qui ont peut-être des idées pour dire non, c'est la sorcellerie quand cette maladie apparaît dans notre communauté, et on peut se prendre en charge dans ce sens-là. C'était un peu ça ma préoccupation.
Merci Nadège. Nous nous tournons du côté de notre invité qui est déjà en ligne, Félix Kabangé-Ndoundi, ministre de la Santé publique. Bonjour son Excellence.
Bonjour.
Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons de cas suspects de fièvre hémorragique à virus Ebola qui ont été détectés à Isiro, au Nord Kivu et également dans quelques localités du district de Ituri. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la situation épidémiologique?
Merci beaucoup. Vous savez, depuis que l'épidémie de Ebola a été déclarée à Kibale au niveau de l'Ouganda, nous avons mis le système d'alerte et on a renforcé les mesures de surveillance sur l'ensemble de la République et c'est comme ça que nous avons pu être alertés pour tous les cas suspects jusqu'à ce jour. C'est vrai que dès le départ, au niveau du sirop, il y a eu énormément de cas qui ont été rapportés, mais l'équipe qui est rentrée sur place, une équipe mixte, ministère de la Santé, OMS, ainsi que Médecins Sans Frontières, à ce jour, ce que je peux vous dire, nous avons 5 cas qui ont été rapportés au niveau de Isiro et 3 cas qui ont été rapportés au niveau de Dungu, pour lesquels nous avons pu faire des prélèvements sur les 8 cas au total. Il faut avouer qu'au niveau de Dungu, sur les 3 cas, il y a un cas de décès, et sur Isiro, nous avons noté 4 cas de décès, parce que ce sont des personnes qui ont été apportées au niveau de l'hôpital à un stade déjà avancé. On a pu circonscrire tous les contacts. Les prélèvements sont en train d'être faits, mais j'ai déjà les premiers résultats que nous avons eu à partir de Dungu, parce que à Dungu, nous avons pu prélever 2 échantillons qui ont été envoyés au laboratoire de CDC Atlanta à Entebbe en Ouganda, pour lesquels les échantillons qui ont été envoyés sont négatifs à Ebola sous Zaïre, à Ebola sous Soudan et à Ebola Boudibudio. Ça a été fait par PCR, donc l'amplification du génome. Et nous avons également eu hier dans la soirée les résultats de ces mêmes échantillons par rapport à notre laboratoire toujours en Ouganda, où on nous a dit que ce n'était pas une fièvre de Marbourg ni une fièvre de Lassa. Là, c'est par rapport à Dungu. Pour Isiro, les échantillons ont été prélevés, les échantillons sont en train d'être analysés et nous attendons les résultats. Mais nous avons été suivis également d'un cas vraiment isolé qui est déjà en isolation au niveau de Bukavu et pour lequel tous les prélèvements ont été faits. Donc jusqu'à présent, comme vous le dites vous-même si bien, il s'agit des cas suspects, étant donné que nous avons mis très haut le niveau d'alerte, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de confirmation qu'il s'agit d'Ebola en République démocratique du Congo. Donc à Dungu, nous avons la confirmation qu'il ne s'agit pas d'Ebola et nous attendons la confirmation des analyses qui sont en train d'être faites au niveau de Isiro.
Oui, en RDC, c'est l'excellence, la fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est déjà déclaré en 1976-77 dans la province de l'Équateur, en 1995 dans la province du Bandundu, en 1999 et 2000 dans la province orientale, et en 2007 et 2008 au Kasaï occidental. Aujourd'hui encore, on parle des cas suspects. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même la lutte contre cette maladie ou cette épidémie souffre quand même éprouve quand même des difficultés pour arriver au résultat.
Il y a un problème, monsieur le journaliste. Il s'agit d'une fièvre hémorragique virale qui, en fait, à ce jour, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments spécifiques. Donc, c'est le niveau d'alerte et l'isolement des malades que nous pouvons faire. C'est pour cela que c'est très important, lorsque j'ai entendu un des intervenants, le médecin de Kinshasa en l'occurrence, quand il parlait des mesures à prendre, c'est très important de continuer à éduquer la population. Parce qu'en fait, l'information reste l'outil principal par lequel on peut éviter cette maladie. Donc, il est important de rappeler justement à nos compatriotes que lorsque vous allez en brousse et que vous trouvez une antilope morte, que vous trouvez un chimériki mort, vous trouvez n'importe quel animal décédé dans la brousse, vous ne savez pas comment cet animal est décédé. Il ne faut pas y toucher. Donc, c'est généralement par ces transmissions de l'animal à l'enfant, que cette maladie, à l'homme plutôt, que la maladie ressurgit dans la communauté humaine. Donc, c'est difficile de dire qu'on va maîtriser ou guérir la maladie, la fièvre hémorragique. Tout ce qu'il faut, ce sont les mesures de sensibilisation et le système de surveillance qui est toujours mise en branle au niveau des différents secteurs chaque fois que la situation se présente.
Il y a beaucoup de préoccupations, des questions et des suggestions et aussi des analyses qui nous parviennent de nos auditeurs. 081-890-43-39, c'est pour les appels.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Radjabou, vous êtes à Kindou. Yves, vous êtes à Isiro. Bonjour Radjabou.
Bonjour messieurs les journalistes.
Voilà.
Bonjour aux auditeurs de la radio de la paix.
Voilà, selon vous, Rajabou, comment on peut lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et fait encore des victimes à RDC depuis 1976?
La sécurité est une affaire de tout le monde, monsieur le journaliste, y compris la sécurité sanitaire. C'est pourquoi, moi, avant de responsabiliser l'État, je vous dirais que la responsabilité incombe à tous. En commençant par exemple par les églises. Les églises, à leur niveau, ont une responsabilité de telle manière qu'ils doivent montrer à leurs adeptes. Ils ont été touchés, par exemple, à un animal qui est mort, sans être égorgé, ou bien à un animal qui est retrouvé comme ça. Ce n'est pas du tout encourageant, même la Bible le dit. C'est pourquoi les églises, l'État et toute structure a de la responsabilité. L'État, à son tour, peut sensibiliser les gens, par exemple, en passant dans le marché, comme les écoles viennent ouvrir, il peut passer par là. Alors, cela ne demande même pas beaucoup de fonds, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Rajabou. Nous retenons qu'il faudrait vraiment s'assurer d'une bonne sécurité à tous les niveaux, et notamment, comme vous l'avez proposé, la sécurité sanitaire, donc l'implication de tous, non seulement des autorités, mais aussi de la population qui doit être sensibilisée à ce niveau, comme l'a dit Dr Richard, votre prédécesseur, et Nadej, qui a renchéri en parlant de l'information communautaire, donc l'information qui doit être donnée à la communauté sur la maladie et la reconnaissance d'ailleurs des signes pour identifier cette maladie et la prise en charge. Merci Rajabou d'avoir apporté cette contribution. Yves, vous êtes à Issiro, bonjour.
Bonjour, c'est bonjour, la radio basique.
Voilà, Yves, comment réagissez-vous?
Bon, je voulais juste apporter ma contribution du fait que, bien sûr, ici on a quatre chaînes de radio. Il y a Radio Nava, Radio Bobosu, Radio RTK, Radio Lisanga et on a la Radio Kapi. Du fait que nous sommes en train d'écouter, bien sûr, que la vie du sur est déjà attaquée avec la virus Ebola. On devait quand même avoir une chaîne de télévision, on devait montrer les gens comment se prévenir à ça. Et quels sont les mécanismes pour faire qu'on puisse pas être contaminé à ça. Et je devais encore dire, à nos frontières, on a vraiment notre frontière vraiment très ouverte comme la bouche. On ne devait pas, dans les frontières, on devait quand même avoir une service là, des surveillances, comment on doit surveiller les gens qui entrent, qui sont avec, et qui est son état de santé, alors on pouvait vraiment avoir une chose là.
Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, peut-être dans le jargon médical, on parle plutôt de cordon sanitaire. Je ne sais pas si il en est aussi le cas pour cette épidémie ou les cas suspects déjà de fièvre hémorragique à virus Ebola qui ont été détectés. Ça demande. On verra ça avec notre invité qui est en ligne. Yves, merci d'avoir apporté cette contribution. Jean, vous êtes à Maragui. Bonjour, Jean.
Bonjour, bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Je voulais juste poser une question de savoir quelles sont les précautions que le gouvernement a déjà prises pour cette. Pour se chercher à cette maladie, à cette fièvre de Ebola.
Merci beaucoup, Jean. Nous tournons du côté de Félix Kabangé Numbi, ministre de la Santé publique. Vous avez suivi des réactions des uns et des autres. D'abord, s'il faudrait apporter quelques précisions sur les dispositions prises, ça nous pousse d'ailleurs à vous poser la question si vous avez pensé à un cordon sanitaire, je ne sais pas, vous avez pu appeler une surveillance, un système d'alerte. En quoi consiste-t-il concrètement?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En ce qui concerne le système d'alerte, d'abord au niveau des frontières, la quarantaine le service de quarantaine a été saisi et nous renforçons la surveillance de tous ceux qui quittent le territoire et de tous ceux qui entrent au niveau du territoire congolais, au niveau de frontières, notamment au niveau du Nord Kivu et de la province orientale. Donc là, les renseignements ont été donnés sur la définition des cas et des mesures particulières de la quarantaine internationale sont en train d'être prises en ce moment. Deuxièmement, par rapport aux autres mesures prises, notamment à Isiro et à Dungu, j'ai dit tout à l'heure que nous avons envoyé envoyé des équipes mixtes, ministère de la Santé, OMS et MSF. Ces équipes sont arrivées justement en appui aux équipes locales pour d'abord sensibiliser le personnel de santé et en plus sensibiliser la communauté. Donc notre ami Yves qui est à Issiro, les radios de Issiro ont été contactés justement par nos services pour la sensibilisation de la population. C'est vrai qu'il pose un problème par rapport à la télévision, mais je voudrais tout de suite dire que c'est la radio, c'est le média des pauvres. La radio, c'est le média des pauvres. L'avantage avec la radio, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur Radio Capi, quand j'ai quelqu'un qui est sur la rue, il peut mettre Radio Capi et tous ceux qui passent peuvent s'arrêter et suivre. Tandis qu'avec la télé, il faut avoir un peu plus de moyens et c'est restreint à quelques personnes. Mais cela n'empêche pas que on puisse faire passer des messages au niveau de la télévision. Et en ce qui concerne les mesures qui sont prises toujours au niveau du Siro et de Dungu pour le moment et maintenant au niveau du Sekivu également, c'est que nous avons prépositionné du matériel de protection pour le personnel de santé. Vous savez, au niveau de l'Ouganda, sur les 23 cas qui ont été atteints par le virus d'Ebola, 4 sont du personnel médical et il y a eu un décès parmi les 4. Donc, au niveau des hôpitaux, le matériel a été prépositionné et au niveau de Kinshasa, nous avons du matériel prêt à être redéployé. C'est du matériel qui est prépositionné au niveau de l'INRB. Il y a du matériel à Kisangani et il y a du matériel qui vient d'être déployé à Issiro et à Dungu, justement, au cas où on nous dirait que c'est la fièvre hémorragique pour que des mesures soient prises immédiatement. Dans l'entretemps, nous avons des équipes qui sont là pour le prélèvement, de sorte qu'on puisse confirmer le diagnostic avant qu'on puisse donner d'autres précisions au niveau de la population. Donc pour le moment, c'est la prévention et je remercie Radio Capi de nous offrir cette tribune et peut-être dans les minutes qui suivent, si vous nous le demandez, nous pourrons donner à la population qui est en train de nous suivre, parce que ça ne concerne pas seulement Isiro et Dungu ou Bukavu, mais ça concerne l'ensemble de la République, monsieur le journaliste, parce que les mouvements des populations chez nous à l'intérieur du pays sont tellement intenses que le message est donné sur l'ensemble du pays et non pas à une catégorie bien spécifique de la population. Si nous avons le temps, nous pourrons donner les quelques mesures qui sont discutées à travers la République.
Oui, on va peut-être vous accorder la parole dans quelques instants encore, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui attendent de vous voir, enfin, de faire parvenir donc leurs préoccupations et aussi leurs analyses par rapport à cette situation. Et nous rappelons à nos auditeurs et surtout à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous avons en ligne notre invité, Félix Kabangé Numbi, ministre de la Santé publique, et nous avons également en ligne plusieurs auditeurs qui attendent de répondre, mais tout en rappelant que la RDC est frappée par 4 ou 5 fois déjà de la fièvre, de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, s'il faudrait le rappeler, en 76 dans la province de l'Équateur, donc au nord-ouest, en 95 dans la province du Bandundu, au sud-ouest, en 1999 et 2000 dans la province orientale, et en 2007 et 2008 au Kasaï occidental, donc au centre. Et au regard de cette cartographie, on se rend compte que plusieurs parties du pays ont déjà été touchées par cette fièvre, donc notamment la partie ouest, est, nord et le centre. Donc c'est ce qu'on peut dire, le virus se déplace en suivant bien entendu les mouvements de population, comme l'a dit son excellence Théophile. Vous êtes à Kananga. Bonjour Théophile.
Bonjour Gérard, bonjour les auditeurs de Radio Capi.
Comment peut-on lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste?
Ma réaction est liée à la condition suivante, mais ma mère ne vient jamais tout seul. Vous savez que nous sommes en train de traverser une période de l'agression de l'ennemi rwandais. Et en plus de cette agression, il y a des maladies, des épidémies qui arrivent et qui déchirent les gens. Moi, je pense, la plupart des intervenants accusent l'État, le gouvernement. C'est bien. Mais on sait que la responsabilité, la sécurité de l'homme, c'est l'homme le plus même. Bon, parce que l'État a parlé des gens qui ramassent des animaux morts et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un se trouve dans la forêt, il trouve un animal mort, il le ramasse pour venir le manger. Ce n'est pas l'État qui lui a dit de ramasser. Donc, nous considérons qu'on est responsable nous-mêmes de notre sécurité sanitaire. C'est pourquoi je propose que s'il y a des campagnes à venir, c'est au niveau de la prise de conscience de la population congolaise sur les impérieuses dispositions à prendre pour leur propre santé. On ne peut pas toujours faire endosser la responsabilité qui est notre sur le gouvernement supérieur. Ça me paraît. D'ailleurs, l'invité vient de dire qu'il y a déjà des stocks de matériel un peu partout. C'est une bonne disposition. Mais néanmoins, il faut prévoir que nous-mêmes ne pouvons pas chercher des maladies là où elles sont. Voilà,
merci Théophile. Nous résumons vos propos avec cette proposition que vous venez de faire. Hein. Donc, si je comprends bien, il faudrait que le gouvernement puisse s'engager dans le schéma de sensibilisation de la population autour des problèmes de santé publique. Hein, pour que la population puisse se faire avoir une idée. Merci Théophile. On va prendre la réaction également de Rachel qui est à Isiro avant d'accorder à nouveau la parole à notre invité. Rachel, bonjour.
Oui, bonjour.
Rachel, vous êtes à Isiro. Comment réagissez-vous?
Oui, en fait, moi, je ne connaissais pas vraiment ce que c'était à Isiro. On est vraiment très inquiet. Parce qu'on voit des gens mourir parce que tous les jours. Je ne sais pas quand on parle, on dit que des gens, quand on parle de cas, ils font que les dénoncer. Je ne sais pas quand on les dénonce, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les dénoncer ou les dénoncer, on les laisse vraiment mourir comme ça? Et je voulais dire quelque chose. Quand on parle, il y a des moyens que les gens peuvent surtout sensibiliser les gens quand ils sont intéressés. Parce qu'on parle souvent à la radio. Il y a... Bon, on peut dire que c'est pas tout le monde qui quitte la radio. Comme c'est sur Bonjour, je ne sais pas si c'est tout le monde qui quitte la radio. Il y a des cartes qui sont réguliers là. S'il y avait moyen de sensibiliser les gens quand ils sont parce que les gens sont tous de mourir, ils ne sont pas bon. Pas envie de bénéficier ces gens. Et que ces gens aient une sensibilité. Ça, il faut savoir comment on peut faire.
Voilà, merci beaucoup Rachel, mais tout autour de vous, est-ce que vous avez constaté quand même au niveau des centres de santé ou dans les zones de santé, les autorités sanitaires ou des prestataires de santé qui s'occupent exactement de ces cas suspects, des gens qui sont déjà malades par exemple, est-ce que vous remarquez quand même une prise en charge médicale?
Oui, bon, je remarque quand dans le sport général, on demande de bénéfices spéciales, hein.
Pour aller avec. Voilà, merci beaucoup Rachel. Félix Kabangé, Numbi, comment réagissez-vous?
Je pense que c'est normal, nous devons continuer la sensibilisation et la sensibilisation doit aller au-delà des médias, c'est pourquoi au niveau du district médical, au niveau du Siro et au niveau de la province orientale et du Nord Kivu, nous avons demandé à ce qu'on puisse aller dans les messages à tous les niveaux. Ça veut dire au-delà des médias qui sont utilisés, il faut faire des contacts interpersonnels, il faut aller dans les églises, il faut utiliser tous les leaders d'opinion à tous les niveaux pour que l'information arrive chez chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en état d'alerte par rapport à la suspicion et bien sûr, nous avons des degrés. À chaque niveau, à chaque étape, si nous avons le diagnostic, nous allons passer à la phase 2 et à ce moment-là, d'autres mesures seront prises. Mais aujourd'hui, la sensibilisation, la prévention joue un rôle très important parce qu'il faut que chaque personne soit alertée aussi bien dans la communauté que dans les structures de santé pour que chaque cas qui sera admis aussi bien dans la communauté que dans les centres de les structures médicales, que ces cas soient notifiés pour que nous puissions faire des investigations afin d'affirmer ou de confirmer le diagnostic de la fièvre hémorragique.
081-890-43-39 pour les appels.
Parole aux auditeurs.
Son Excellence, c'est vrai qu'un autre cas dont la mort s'en suivi a été notifié, vous l'avez dit, à Bungu, l'un des 6 territoires qui compte le district de Ouélé. C'est vrai qu'avant qu'on vous libère, Excellence, est-ce que vous pouvez quand même nous faire une idée sur la prise en charge médicale de ces cas suspects quand on doit déjà signaler des morts qui s'en est suivi bon, ça commence à quand même inquiéter. Vous avez suivi d'ailleurs les intervenants de tout à l'heure. Ceux qui ont appelé de Siro ont insisté aussi sur ça. Qu'en est-il exactement de cette prise en charge?
Oui, merci beaucoup. La prise en charge, je pense qu'elle est à deux niveaux. Je l'ai dit tout à l'heure que la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Sur le plan médical, lorsque le cas est déjà notifié au niveau de l'hôpital, nous prenons en charge de manière symptomatique. Ça veut dire, en fonction des signes que le malade présente, on va donner des médicaments qui, en fait, sont en train de soigner les signes et les symptômes. Parce qu'en fait, nous disons que c'est une fièvre hémorragique virale. Et ces virus-là, il n'y a pas de traitement particulier aujourd'hui pour le traitement d'Ebola. Donc, nous prenons plutôt le cas est référé dans un hôpital, on va maîtriser la fièvre, on va maîtriser la diarrhée, on va maîtriser les douleurs, on va maîtriser les hémorragies que le patient est en train de présenter. Et plus tôt le cas est admis, plus on peut avoir des chances de pouvoir maîtriser le cas. Mais comme je le disais, le problème c'est la prévention. Donc ici, il faut que tout le monde comprenne que quand nous parlons des fièvres hémorragiques, qu'il s'agisse de fièvre d'Ebola, qu'il s'agisse de fièvre de Marbourg, qu'il s'agisse de fièvre de Lassa ou d'autres fièvres hémorragiques, ça veut dire que le patient va se présenter au centre ou dans la communauté avec des maux de tête, un manque d'appétit, une fatigue intense, des douleurs musculaires ou articulaires, il aura des difficultés à pouvoir respirer, je m'excuse, le malade peut présenter des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, des difficultés à avaler ou des hoquets. Okay, mais vous voyez que tous ces signes que je présente, ce sont des signes communs, en fait, à la grippe ou à d'autres pathologies que nous retrouvons dans la communauté, mais tous ces signes sont souvent accompagnés de saignements inexpliqués, où le malade va présenter ses saignements et le malade va décéder dans les heures qui suivent. Et qu'est-ce qu'il est demandé à la population? La première chose, comment éviter la maladie? Il faut éviter de toucher et manipuler tout animal trouvé mort ou de consommer sa viande. De toucher sans protection les vomissements, le sang, les selles, les urines d'un malade qui est décédé au décours d'une fièvre hémorragique. Dormir avec les malades qui présentent cette fièvre-là. Rester près d'un malade qui souffre de cette fièvre sans protection. Toucher ou manipuler les vêtements et autres objets souillés par le malade. Toucher ou laver le cadavre. Et ici, il faut se dire ceci. Lorsque vous avez été en contact avec cette personne, qu'est-ce que vous devez faire? Et dans le cas commun, tous les jours, comment faire pour se prémunir? D'abord, il faut se laver les mains au savon après avoir utilisé les toilettes ou la trine. L'autre fois, nous étions en réunion du Conseil national de surveillance dans la réunion de crise et il y a le professeur Mouyembe qui nous a donné l'exemple de ce qui avait été décidé lors d'une des épidémies de fièvre hémorragique, que les gens ne pouvaient plus se saluer par les mains, la salutation se faisait par les coudes. Ça, c'est un signe qui montre qu'on évite de se saluer par les mains. En fait, par les coudes, c'est vrai que les attouchements peuvent être à l'origine, mais quand on se salue par les coudes, ça veut dire qu'on évite le plus possible les mains qui peuvent être qui est la partie du corps qui peut être l'objet de contamination beaucoup plus facilement. Donc, au moment où nous leur demandons, avant de faire la cuisine, de pouvoir laver les mains, avant de faire la cuisine justement, de faire bouillir l'eau ou de désinfecter l'eau avec des solutions chlorées, il faut éviter de consommer les aliments qui ne sont pas cuits. Et ça, c'est très important. Et nous demandons à ceux qui, malheureusement, vont faire leurs grands besoins dans la brousse, d'éviter d'aller faire les grands besoins dans les rivières ou autour des sources d'eau, parce que cette eau peut être utilisée pour l'alimentation.
Oui, excellent. Excellent. Oui. À ceux qui disent qu'il y a vraiment un déficit d'information, un déficit de sensibilisation, vous leur répondez quoi?
Nous allons faire des efforts pour intensifier cette communication à travers la République et à travers les régions concernées. Mais monsieur le journaliste, nous avons pris des mesures en amont. En fait, dans le même temps que nous sommes en train de donner l'information, nous voulons rappeler à la communauté congolaise qu'il n'y a pas d'épidémie, parce que au même moment que nous donnons l'information, il y en a qui prennent cette information comme si l'épidémie d'Ebola est déjà déclarée en République démocratique du Congo. Donc nous allons renforcer la communication, la sensibilisation et les échanges d'informations dans le même temps que nous disons à la population qu'elle sera tenue informée en temps réel de l'évolution de la situation.
Voilà, vous avez demandé une demi-heure. Si vous pouvez peut-être accorder encore deux petites préoccupations, deux auditeurs que nous allons juste prendre, et puis nous allons nous séparer, on va vous quitter. Donc,
la situation est importante, je me disponibilise, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, excellence.
Les Congolaises et les Congolais, c'est plus important que certaines activités routinières que nous faisons.
Voilà, merci de nous avoir accordé encore votre disponibilité. Nous avons Jules qui est à Congolo et Mathieu à Calémy. Et bonjour, Jules.
Bonjour, confrère, et bonjour à tous les éditeurs de la radio communautaire des Congolos, grâce à laquelle nous sommes en train de vous suivre pour l'espace à partir des Congolos.
Merci beaucoup, Gilles. Mais, comment réagissez-vous?
Oui, je réagis en ce sens. Pour lutter contre le virus Ebola, il faut tout d'abord engager une campagne sur toute l'étendue de la RDC pour combattre cette maladie. Cela doit se faire dans des milieux fréquentés par le public, tels que les écoles, les églises, les marchés et tout ça. Et ne pas oublier de citer les radios, les télévisions et presse écrite, où l'on doit expliquer à l'âge la cause et l'origine de cette maladie. Bon, mais quel journaliste, ici à Congolo par exemple, la majeure partie de la population vit de la chasse, et quand vous entrez au marché central des Congolos, la viande des animaux sauvages, est en abondance. Quand j'y entre, je me pose une série de questions. La première question que je me pose est comment le service de vétérinaire a eu le temps de savoir si cette maladie, cette quantité de gain énorme ne contient pas cette maladie étant redoutable par tout le monde. Une manière brève de dire ceci, les journalistes, il faut que le gouvernement fasse appel aux investisseurs étrangers pour la fabrication des médicaments afin de guérir cette maladie à ceux-là qui en seront victimes. Voilà un peu ce que j'avais à dire, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Jules. Donc, nous retenons une chose. C'est vrai que vous venez de dire tout haut ce que les autres peut-être disent tout bas. Je comprends qu'il faudrait réaffecter le montant alloué aux campagnes de vaccination contre la polio pour la sensibilisation des populations donc autour des fièvres hémorragiques à virus et Ebola. Et vous avez même proposé un appel, faire appel aux investisseurs étrangers pour chercher à mettre sur pied des vaccins pour pouvoir lutter contre cette maladie. Merci à Jules d'avoir appelé de Congolo et d'avoir posé cette préoccupation à notre invité. Mathieu, vous êtes à Calémy. Bonjour Mathieu. Mathieu, vous êtes à Calémy. Bonjour. Voilà, Mathieu. Ok, nous avons Félix Kabangé-Numbi, ministre de la Santé. Vous avez suivi Jules et tant d'autres intervenants. Comment réagissez-vous, Excellence?
Merci beaucoup. À poser des questions de fond par rapport à la campagne qu'il faut mener sur l'ensemble du pays. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord avec lui et que pour le moment, comme je l'ai dit, nous avons donné l'information d'abord par rapport à l'épidémie qui est en train de sévir en Ouganda. Nous avons donné un peu plus d'informations sur terrain par rapport aux zones qui sont concernées aujourd'hui, notamment Isiro, Dungu, Bukavu. Mais nous sommes d'accord avec M. Jules que nous devons continuer à sensibiliser l'ensemble des couches de la population au niveau de la République. Jules soulève un problème par rapport aux quantités énormes de viande qui viennent ou qui sont commercialisées au niveau de Congolo. J'aimerais rappeler à l'ensemble de la population, nous n'avons pas dit que les gens ne doivent pas consommer la viande animale. Non, mais il est important, nous rappelons aux chasseurs, à ceux qui vont dans la forêt, qu'ils ne doivent pas prendre les animaux qu'ils trouvent morts dans la forêt. Mais dans le même temps, nous allons demander aux services vétérinaires, par l'entremise du ministre de l'Agriculture, pour que soient renforcées justement des analyses sur ces viandes qui sont apportées dans les différents marchés à travers la République. En ce qui concerne la production des médicaments, j'aimerais dire que les recherches sont en cours. Vous-même, vous avez rappelé que cette œuvre est hémorragique est en train de sévir depuis de nombreuses années, depuis 76 d'ailleurs, si nous devons partir de la première épidémie qui a sévi en septembre-octobre 1976 à Yamboukou dans la province de l'Équateur, et pour lequel on avait eu un taux de mortalité qui avoisinait à peu près les 88%. Depuis lors, les recherches sont en cours. Mais vous savez, la recherche demande aussi excessivement et beaucoup d'argent. J'aimerais saluer ici l'intervention personnelle de son Excellence Joseph Kabila, président de la République, parce que vous savez, lors de la dernière épidémie qui avait sévi en 2008 à Luebo, au Kasa occidental, et le président de la République avait lui-même appelé M. Le Sambo, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, pour lui dire qu'il fallait qu'on améliore les conditions de prise en charge et même les conditions de diagnostic. Aujourd'hui, l'OMS vient de financer pour l'installation d'un laboratoire de niveau P3 au niveau de l'Institut National de Recherche Biomédicale, ici au niveau de Kinshasa. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut encore plus de financement pour que demain, on puisse aboutir à un vaccin ou à un médicament contre le virus Ebola. Vous savez, le VIH aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en train de chercher, il n'y a pas de vaccin, mais on a trouvé des médicaments non pas qui guérissent, mais qui bloquent la multiplication du virus. Donc les recherches sont en cours. Je voudrais terminer par rapport à Jules, le journaliste, quand il évoque le fait qu'il faut prendre l'argent des campagnes polio pour l'amener à la sensibilisation pour la fièvre hémorragique, je pense que non. Nous allons disponibiliser des moyens avec aussi bien le gouvernement que les partenaires pour une sensibilisation toutes les minutes, mais nous ne pouvons pas prendre l'argent de la polio parce que ce fléau-là, la polio, nous sommes restés parmi les rares pays au monde qui n'avons pas encore éradiqué la poliomyélite. Souvenez-vous de l'épidémie de Kananga qui avait pris, qui a rendu infirme plus de 1000 personnes à travers cette ville. Et je voudrais rappeler que c'est nous sommes en train de faire des efforts et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2012, aucun cas de polio n'a été identifié en RDC. Donc nous devons continuer à sensibiliser contre la polio de la même façon que nous devons continuer à sensibiliser pour les fièvres hémorragiques en République démocratique du Congo.
Justin Itakikuit, Justin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Justin, vous qui êtes expert en matière, comment réagissez-vous?
Bon, j'ai réagi d'abord parce que j'ai écrit un livre avec, en 95 à l'apparition du virus Ebola Kiki. Et ce livre-là, c'est vraiment l'expérience du Kiki. Alors, si j'ai réagi, c'est pour dire que c'est surtout le manque d'informations qui fait que l'épidémie connaît une expansion ou que l'épidémie connaît aussi, connaît beaucoup de morts. C'est vraiment le manque d'informations. Moi, je propose deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'au niveau des écoles, qu'il y ait au moins la sensibilisation. Parce que, à l'époque coloniale, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un cours d'hygiène, même à l'école primaire. Et dans ces cours d'hygiène-là, on apprenait aux enfants quelques notions d'hygiène, et puis aussi quelques maladies comme la maladie du sommeil. Et aujourd'hui, vous voyez que l'épidémie Ebola est endémique dans notre pays. Donc, les écoles doivent être informées. Et les écoles ont ignoré les instituts supérieurs médicaux. Parce que nous étions surpris à Tissit en 1995 de voir même les gens qui sont formés en sciences médicales avoir peur de cette maladie-là. Et l'ignorance, et c'était surtout ce qui manquait, c'était la définition des cas. Alors, je me résume en ceci, il faut une forte sensibilisation de la population, et puis je demanderai même au ministre de Tissit, vous venez de publier un livre sur le virus Ebola qui est mis sur ou réalité et 15 ans après. Si on peut vulgariser ce livre au niveau national, parce que c'est toute l'expérience que j'ai pu faire dans ce livre, ça serait une bonne chose. Donc, il faut mettre ça aussi dans les zones de santé. Parce que c'est vraiment la définition des cas qui fait difficulté. On n'arrive pas à détecter à tant de cas d'Ebola dans des milliers, et parce que c'est peut-être déjà trop tard et la maladie est déjà au sein de la population.
Merci beaucoup, Rissin. Un coucou à tous ceux qui nous suivent à Kikuit. Hein. Nous retenons que le ministère de la Santé et celui de l'Éducation, en synergie, doivent travailler pour revoir un peu le contenu de ces cours d'hygiène à l'école primaire et à l'école secondaire. Et nous avons Arnaud qui est à Kinshasa, mais tout en rappelant que vous demandez également au ministre de vulgariser le livre que vous avez écrit en rapport avec d'ailleurs cette fièvre hémorragique Ebola, un virus Ebola qui s'est déclaré dans la province du Bandundu en 1995, qui a fait également des victimes. Arnaud, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur, et bonjour à tous les auditeurs.
Oui, comment réagissez-vous Arnaud?
Bon, moi je réagis à propos de ce qui s'était passé à Tikrit et à la position de monsieur le ministre. À la fin de dit, il est posé, c'est comme si tout est en place, alors que le drame est là. Ce qu'il devait faire alors, c'est surveiller tout au long du frontière et contrôler les sorties et les entrées. Mettre en quarantaine les zones affectées. Et maintenant, comment, avec ça, on va prévenir les drames sociaux. Ce qui se passe ici à Kinshasa, dans de nombreux champs que nous découvrons, il y a de la musique de théâtre, tout comme ça,
c'est la zone de démocratie,
des désastres.
Voilà, et Arnaud, nous retenons une chose, c'est vrai, vous venez peut-être nous prendre cours, au cours de cette émission, donc vous venez à peine de nous rejoindre, mais notez que le sélectionnement a insisté sur le système de surveillance mis en place, et aussi la solution n'est que préventive pour éviter des cas, mais jusque-là nous n'avons que des cas suspects. Arnaud, merci d'avoir appelé des questions. Abdallah, vous êtes à Bukavu, bonjour Abdallah.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Abdallah, vous également, vous êtes expert comme Roussin, hein? Comment réagissez-vous?
Oui, moi je pense que il y a un mauvais système de gestion, donc un mauvais système de pratique de santé publique ici au Congo. C'est lorsque les cas sont déclarés, et à ce moment-là, on vient maintenant prendre des mesures de prévention. Au lieu de penser bien avant que les gens ne puissent pas mourir, au Congo, on reste toujours calme et inactif, et quand les cas sont déclarés, parce que ce n'est pas seulement la fièvre hémorragique et les écoles. Il y a autant de maladies épidémiques qui sont déclarées, même éradiquées ailleurs, mais persistent toujours au Congo. C'est parce que la santé publique n'est pas applicable. Lorsqu'on devrait prendre peut-être les experts en santé publique et les mettre ensemble pour qu'ils puissent élaborer des stratégies de prévention, d'éduquer la population, chaque fois il y a besoin, et la population devrait être éduquée à tout moment et il ne fallait pas attendre jusqu'à ce que les maladies soient déclarées pour qu'on puisse commencer les procédures d'éduquer la population. Si c'était la radio qui a fait aujourd'hui de prendre ce thème, personne ne pouvait en parler de tout ce qui concerne les épidémies. Donc, il y a un mauvais système de santé publique au Congo et le gouvernement devrait penser comment prendre les mesures avant que les maladies ne soient pas déclarées pour que la population soit bien éduquée.
Voilà, merci Abdallah. Donc, il faut déjà des stratégies préventives en amont et non en aval, hein, parce qu'on a toujours remarqué, selon vous, qu'on attend toujours que la maladie soit déclarée pour qu'on puisse mettre toutes les stratégies en place. Et souvent, là, on est surpris et puis on fait des choses à la va-vite et le résultat n'est pas celui souhaité. Merci Abdallah. Nous nous retournons du côté de notre invité, Félix Kabangé, Numbi, ministre de la Santé publique. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie d'abord tous les intervenants, en commençant par Abdallah, qui vient d'intervenir de Bukavu. Peut-être pour le rappeler, parce qu'il dit que c'est à peine aujourd'hui que la radio Capi en parle, que le gouvernement de la République en parle, je pense que ça fait 4 jours de crise que nous avons tenu au niveau du ministère et qui ont été médiatisées depuis le moment où nous avons eu le rapport de confirmation de l'épidémie au niveau de l'Ouganda, les mesures ont commencé à être prises. J'aimerais rappeler à notre ami Abdallah qu'il existe un système national d'information sanitaire et qu'il existe un système de surveillance épidémiologique au niveau de la République. Et chaque semaine, au niveau de mon ministère, nous tenons ce que nous appelons le comité national de coordination de la lutte et de toutes les mesures de sensibilisation et de protection par rapport à la maladie. Donc chaque semaine, les zones de santé rapportent les différents cas qu'ils ont et et nous les analysons au niveau national. Donc, nous voulons dire tout simplement à notre frère Abdallah que, en tant que ministre de la Santé, nous avons l'obligation des moyens, mais légèrement des résultats, mais pas totalement. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas freiner la maladie à ce qu'elle puisse se développer. Vous savez, il y a énormément de facteurs qui influent dans la survenue des maladies à travers les différents coins de la République. Mais notre rôle à travers ce système de surveillance, quand les cas sont notifiés, nous sommes alertés et automatiquement, nous essayons de prendre les dispositions en main. Donc, par rapport à l'épidémie en cours ou à la suspicion des cas plutôt en cours au niveau de la République, les mesures ont déjà été prises. Mais comme je le dis, je le répète encore, monsieur le journaliste, à l'attention de tous les auditeurs de Radio Capi, que notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser la population par rapport à la définition des cas. De sorte que partout où il y aura un cas suspect, qu'on puisse le notifier, qu'on puisse le dire pour que nous puissions faire les prélèvements. Cela nous permettrait de savoir s'il s'agit d'une épidémie de fièvre hémorragique ou pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses que nous sommes en train de faire et nous avons déjà préparé beaucoup de choses par rapport à la réponse. C'est ici qu'il faut que je réponde aussi à notre ami Arnold. Je vous remercie d'abord, monsieur le journaliste, d'avoir déjà essayé de répondre à notre question.
Je vous remercie
également que notre ami Arnold a peut-être pris l'émission en cours. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, monsieur le journaliste, demander à ce que nous puissions mettre en quarantaine les gens qui ont été, par exemple, en contact avec un cas suspect. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons déclaré une épidémie et si demain, après-demain, nous avons des résultats qui vont nous arriver par rapport aux prélèvements qui ont été faits pour les autres cas et qu'on nous dit qu'il ne s'agit pas d'une fièvre hémorragique, vous comprenez un peu dans quel état nous allons mettre de psychose, nous allons mettre la population. Mais cela nous oblige, nous, à notre niveau, de prendre toutes les dispositions. Parce que tous les cas qui sont notifiés sont directement mis en isolation et tous les cas qui ont été en contact avec ces personnes, on leur donne un modus vivendi, une façon de vivre pendant les 21 prochains jours où ils sont en observation. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas distraits en ce moment-ci. Nous sommes en train de travailler ensemble avec nos partenaires et tous les services de santé à travers la République.
Alors, Bisson a parlé récemment de Tupuit, qui a demandé à ce que le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Éducation puissent revoir un peu le contenu de ce cours d'hygiène, parce que nous tous sommes passés par l'école, il y a hygiène et santé, l'étude du milieu. Donc voilà, c'est quand même important en ce moment
C'est très très important ce qu'a dit notre ami Rossin. Nous sommes dans un même groupe thématique avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, mais également d'autres ministres qui ont en charge l'éducation, notamment le ministre de l'Emploi, le ministre des Affaires Sociales, le ministre du Genre, parce que chacun gère un secteur des sciences de la santé. Donc je pense qu'il est important que nous puissions insister sur la réforme par rapport aux cours d'hygiène. Et ça, j'en prends bonne note et nous allons en parler. Et je voulais peut-être ajouter par rapport à la définition des cas, notre ami Rossa a insisté sur le fait que la dernière épidémie ou les deux épidémies, la dernière épidémie de Tupuit, il y a eu beaucoup de personnels de santé qui sont décédés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'envoyer à tous les niveaux la définition des cas par rapport justement à la fièvre hémorragique pour que non seulement le personnel de santé soit capable de détecter les cas, mais qu'il soit également capable de se protéger. Et une fois qu'il nous contacte, nous allons envoyer le matériel de protection. Je termine pour notre ami Roussin, pour son livre qu'il a édité. Je serai très intéressé d'avoir ce livre, de le lire, parce que avant de le vulgariser, nous aurons besoin que nos services et nous-mêmes, nous puissions le lire pour voir s'il est conforme au message que le ministère est en train de donner au niveau de la République. Et je vous promets que s'il est conforme, parce que c'est une expérience vécue, nous allons vous accompagner dans la vulgarisation de ce livre à travers toute la République.
Donc, nous allons peut-être le rappeler tout en insistant sur notre numéro d'appel. C'est le 081-890-43-39 pour les appels. Vous avez également la possibilité de poster vos réactions sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et vous qui nous rejoignez, bienvenue. Yannick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour.
Voilà Yannick, comment réagissez-vous?
Oui, ma réaction est la suivante. Hein, souvent, le ministre, je crois que il donne des solutions plus sur ce qui concerne les signes, les symptômes que la maladie présente. Donc, ne pas toucher la personne qui est décédée de la maladie et surtout ne pas toucher ses biens ou ses vêtements de sort pareil. Mais j'aimerais bien qu'on puisse voir l'origine de la maladie. En théorie, que les animaux dont il a parlé au début, là, les animaux décédés dans la forêt et toute cette origine. Et par là, je me suis abordé dans le sens de la personne qui avait parlé sur les normes dans l'allocatif service, en appuyant le ministre lorsqu'il a parlé des services sur les animaux.
Voilà, donc vous voulez parler des animaux qui sont, on l'a dit, des animaux qui sont morts, et puis vous les manipulez, ça peut être aussi une source de contamination.
Ouais, comme étant une source, bon, en parlant sur le service vétérinaire, bon, il serait mieux peut-être de normaliser l'histoire à partir de là, parce que c'est plus là la source de la maladie.
Oui, ben le ministre a insisté, Yannick, sur la collaboration qui existe entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, et les deux ministères travaillent dans ce sens-là pour arriver à conjuguer les efforts pour amener la population à une forte sensibilisation sur les dangers auxquels ils font face, qu'ils font face, disons, en manipulant les animaux morts, les animaux décédés. Il faut vraiment l'éviter. Donc, je crois que la sensibilisation pourrait continuer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, Yannick, si vous avez peut-être quelque chose à ajouter en 30 secondes.
Non, je n'ai pas rien à ajouter, sauf que je voulais simplement intervenir sur ça. Donc, il faut peut-être aller à partir de la source pour éradiquer la maladie.
Voilà, merci Yannick, son excellence. Je crois que les auditeurs, en suivant religieusement les interventions des uns et des autres, on se rend compte que tous réclament, en tout cas, une information pour permettre à ce que chacun puisse se faire quand même une idée sur la maladie.
Merci beaucoup, je pense que le message a été compris. Donc au-delà de ce qui se fait sur terrain, nous allons essayer d'intensifier la sensibilisation et la communication par les médias et par tous les canaux. Ça c'est un message qui vient d'être entendu et nous allons nous y mettre.
Voilà, nous rappelons d'ailleurs que 5 cas suspects de fièvre hémorragique, un virus Ebola, ont été détectés à Isiro, chef-lieu du district du Haut-Wélé, dans la province orientale nord-est de la République démocratique du Congo. Un autre cas dont la mort s'en est suivie a été notifié à Dungu. L'épidémie de fièvre hémorragique est à Paris, il faut le rappeler, depuis juillet dernier, à 200 km de Kampala, en Ouganda, tuant 14 personnes sur les 20 cas confirmés. Alors, vu la proximité entre la province orientale et la partie orientale de l'Ouganda et l'intense trafic entre les deux pays, les acteurs humanitaires de la RDC ont pris des dispositions préventives pour faire face à cette épidémie. Nous avons d'ailleurs suivi son excellence par rapport à ça. Il faudrait qu'on rappelle encore et qu'on insiste que la fièvre hémorragique contre laquelle il n'existe ni traitement ni vaccin tue entre 50 et 90% des personnes atteintes. Elle est aussi hautement contagieuse par contact direct avec le sang, les sécrétions corporelles ou quand on manipule sans précaution des cadavres contaminés. Voilà. Nous allons passer maintenant à la conclusion avec notre invité, tout en vous invitant également à poser quelques préoccupations donc pour nous permettre de discuter avec notre invité, M. Félix Tabangé-Noumbi. Nous rappelons que vous êtes ministre de la Santé. Si vous pouvez encore rester en ligne pour quelques minutes, juste après le flash d'information, nous allons reprendre avec vous pour conclure cette émission. C'est parce que Radio Capine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net. Alors merci de nous rejoindre. Samuel, vous êtes à Isiro. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour,
Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Mathieu.
Oui, monsieur.
Voilà, Samuel, vous êtes un sirop. Vous pouvez, vous êtes, vous, disons, c'est vous qui allez, vous aurez quand même l'honneur hein, de pouvoir discuter avec nous, donc conclure avec nous cette émission. Samuel, comment réagissez-vous?
Oui, j'ai rejoint à la présence de son excellence le ministre. Il demandait aussi de renforcer la capacité des services et des gardiens de frontières. Parce qu'en Ouganda, bien sûr, il confirme que la fièvre est déjà totalement déclarée. Néanmoins, le service et les gardiens de frontières, je ne sais pas s'il est aussi nécessairement avec les matériels capables de pouvoir vérifier la traversée de la frontière. L'Ouganda, la province de Kalahamba, Aru, Amagi, même vers le Soudan, là. Il va falloir que les services de gens de frontières soient vraiment équipés et doter des moyens capables pour vérifier les passants. Sinon, ça va être une multiplication des cas comme ça, parce que des gens de Ougandais qui vont venir vers Dungu, où il y a des catastrophes des ONG, et les gens de Dungu s'approvisionnent toujours vers l'Ouganda. Donc, c'est ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut aussi, c'est peut-être que le ministre peut envisager une sensibilisation à l'endroit des infirmiers, des agents soignants. Il faut qu'ils soient aussi vraiment avertis et érodés dans cette matière pour vu que le malade, les fécales qui sont en vérification, ne puissent pas continuer comme ça. Sinon les infirmiers ne seront pas, eux-mêmes aussi seront donc.
Ils ne seront pas épargnés.
Victimes dans cette situation.
Merci beaucoup, Samuel. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, monsieur Gérard. Je suis prophète Mathieu, je ne suis pas à Kananga. Je suis de Kananga, mais je suis présentement à Kinshasa. En ce qui me concerne, ces maladies graves appelées Ebola, nos Congolais qui proviennent d'une rivière passant près de la ville de Yambuku, ici en République démocratique du Congo, comme tout le monde le sait, c'est un virus, c'est un mot latin qui signifie poison. Maladie qui fait affaiblir le corps, détruire les organes et tue au moins de 2 semaines. Maladie qui se transmet par l'air, l'origine alimentaire. Il y a 5 ans maintenant où cette maladie a été confirmée dans notre pays, tout justement dans la province du Kasaï occidental, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette maladie, j'ai dit, était contrôlée par le porte-parole de l'OMS à Genève, M. Fadela Saïd, après avoir tué beaucoup de personnes par cette œuvre hémorragique appelée Ebola, où jusqu'à ce jour, n'a pas encore eu un traitement spécifique pour la soigner. Mais les traités seulement avec des antibiotiques, une forme de calmant.
Oui, Mathieu, si on peut aller droit au but, parce qu'on va conclure, on va libérer notre invité. Quelle est votre préoccupation par rapport à cette maladie? Comment on peut faire pour lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et fait encore des victimes à RDC depuis 1978? Et nous rappelons que l'épidémie, donc la fièvre hémorragique contre laquelle il n'existe ni traitement ni vaccin, tue entre 50 et 90% des personnes atteintes.
Bon, moi je crois que d'abord, comme il n'y a pas encore eu un traitement spécifique, il faudrait d'abord, première chose, c'est donner les conseils à la population de l'est du pays. Vous savez comment cette population est en train de traverser vraiment les calvaires avec la guerre imposée par le M23. Alors il faudrait que les ONG internationaux puissent un peu assister cette population avec des médicaments, pourquoi pas. C'est à ce qui me concerne, je trouve qu'il faut
voilà, Mathieu, merci. Merci, nous retenons que selon vous, donc il faut un effort du côté des ONG internationales, hein, qui sont des partenaires, il y a pas mal de partenaires traditionnels qui travaillent aux côtés du gouvernement congolais, qui viennent en appui au gouvernement congolais. Je crois qu'ils vont pas croiser les bras par rapport à la situation. Une fois que la maladie sera réellement déclarée, je crois qu'ils ne seront pas le bras pour venir en aide. Mais en ce moment, nous sommes encore à des cas suspects de fièvre hémorragique à virus Ebola qui ont été détectés. Alors Mathieu, une fois encore merci d'avoir appelé. Vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes des Canada. John, vous êtes à Kindu. Bonjour John.
Bonjour, c'est John Lukita qui appelle de Kindu.
Voilà John, comment réagissez-vous?
Bon, alors, je trouve ceci. Tout ce qui fait l'Ouganda est préjudiciable au Congo.
Quand vous voyez la mosquée du Magnon, la souche ougandaise, c'est une souche qui est la plus légère vis-à-vis du Magnon. Et quand vous regardez l'armée ougandaise, elle vient toujours semer désolation au Congo. Maintenant, l'Ebola qui vient d'Ouganda, c'est une souche qui sera encore très dévastatrice ici chez nous au Congo. Bon, ça je n'ai pas une parenthèse.
Oui,
maintenant, j'ai réagi
oui,
par rapport à la réaction d'un auditeur qui disait que l'affaire ne concerne pas le gouvernement. Non, mais pour ce genre de pathologie, il faut une lutte en amont. Et en amont, cela veut dire qu'il faut, par exemple, que le gouvernement décrète les années, beaucoup d'années de consommation de légumes. Et pour cela, quand on consomme les légumes, on évite la consommation de la viande, ce qui serait qu'on peut éviter pour une longue durée l'apparition de cette maladie dans la communauté. Voilà, voilà donc
votre contribution.
Dispositions à prendre vis-à-vis de cette maladie.
Voilà, on va conclure avec notre invité, Félix Kabangé-Numbi, ministre de la Santé publique. Excellence, vous êtes encore en ligne avec nous? Voilà, excellence, vous êtes encore en ligne avec nous? Voilà, donc malheureusement, nous terminons donc avec ces propos de John qui a conclu avec nous. Donc nous rappelons que des cas suspects de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été détectés à Isiro, chef-lieu du district du Haut-Ouélé, dans la province orientale. À Bukavu, disons, au Nord Kivu, le ministre provincial de la Santé a indiqué au cours du conseil provincial des ministres tenu le week-end dernier que cette épidémie serait d'ailleurs à la porte de la ville de Goma. D'autres cas suspects ont aussi été signalés dans certaines localités du district de Ituri. Et nous nous posons la question de savoir comment on peut réellement lutter efficacement contre cette fièvre hémorragique qui persiste et qui fait encore des victimes en RDC depuis 1976. Donc, si vous le permettez, pour une petite histoire, la fièvre hémorragique à virus Ebola s'est déclarée en 1976 dans la province de l'Équateur au nord-ouest, en 1995 dans la province du Bandundu au sud-ouest, en 1999 et 2000 dans la province orientale et en 2007 et 2008 au Kasaï occidental, donc au centre. Alors, pour les cas suspects actuels, ce sont des cas notamment repérés dans le district, donc je l'ai dit, détectés à Isiro, au chef-lieu du district du Haut-Ouélé, dans la province orientale. Là, nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo. Et ce sont des informations que nous tenons de Jean-Marc Madidi, médecin inspecteur provincial de la province orientale. Et un autre état dont la mort s'en est suivie a été notifié à Dungu, l'un des six territoires qui compte le district du Haut-Ouélé. 081-890-43-39, c'est ce qu'on nous appelle. Il nous reste encore quelques minutes le temps pour nous donc de prendre notre invité pour la conclusion.
Parole aux auditeurs.
Voilà, donc on va conclure avec notre invité, son Excellence Félix Kabangé-Numbi, ministre de la Santé. Monsieur Félix, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, monsieur Gérard.
Voilà. Alors, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? La sensibilisation telle que souhaitée par les uns et les autres, donc les intervenants de tout à l'heure, vous prenez ça en compte, et aussi quelques informations qui nous ont été livrées par les uns et les autres, notamment sur la technique ou le système de surveillance pour éviter effectivement de propagation de cette maladie à travers le pays.
Merci beaucoup, Monsieur JR. Donc, je retiens de cet échange avec nos auditeurs à travers tout le pays, d'abord, qu'il y a un besoin criant d'information. Et là, nous allons encore la critique de la façon dont nous avons fait l'information sur la société pour essayer de renforcer le système d'information, de sensibilisation, de communication à travers l'ensemble du pays. Mais je voudrais encore une fois remercier Radio Kapi par rapport à cette tribune et nous espérons qu'il y a de nombreux auditeurs qui ont pu suivre cette édition. Nous notons également, et nous aurons d'ailleurs une réunion avec le service de la quarantaine, le service d'hygiène aux frontières, pour que nous puissions renforcer encore beaucoup plus les mesures de surveillance au niveau des frontières. Je note également qu'il y a un déficit d'information dans le chef du personnel de santé et nous avons commencé le travail au niveau du Siro et de Dungu. Nous allons continuer à travers toute la République pour donner l'information au personnel de santé pour que ce personnel soit préservé. Et je termine en disant tout simplement que tout cas de fièvre anormalement expliqué, brutal, avec des cas d'hémorragie, doit être très vite rapporté et on doit éviter des contacts avec ces personnes, les amener pour qu'ils soient isolés dans les milieux hospitaliers et nous tenir informés. C'est l'information la plus importante. Il n'y a pas d'épidémie en RDC, il y a des cas suspects. Nous sommes en train de suivre et la population sera tenue
informée au jour le jour. Merci Félix Kabangé de rappeler que vous êtes ministre de la Santé. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Diman Dalou qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Titi Poutou et Comtesse Matouba l'ont réalisé et Jir Mungimbo vous l'a présenté sous la supervision de Bicom Data. Laissez-vous continuer sur notre site web www.radiocapi.net. Demain, parole aux auditeurs s'intéressera à la gestion de la sécurité sociale. En RDC, la gestion de la sécurité sociale est confiée à l'USS par un décret loi du 29 juin 61. Comment réagissez-vous face à l'appel du ministre de pouvoir faire, disons, aux entreprises privées, de faire affilier leurs agents aux cotisations sociales à l'Institut national? Inscrivez-vous déjà et à très bientôt. Thank you.